mort aussi, l'amour aussi, peut-être les femmes, puisqu'il entreverra une jeune femme, à travers une amitié avec un vieux monsieur qui est en train de mourir. Donc cet enfant est un petit peu fasciné par la mort, mais ça n'est pas que le sujet du film, on en parlera. Et puis Jean-Marc Robert, votre livre, Une petite femme, la petite femme, c'est votre mère, qui vit, qui est vivante, qui s'appelle Peggy dans le livre. Et ma première question, c'est qu'à la fin du livre, vous dites « Je suis libre enfin ». Alors pourquoi « Je suis libre enfin » Puisque tout le livre, c'est cette relation et cette emprise et cette relation très forte qui existe entre votre mère et vous. C'est une... Vous êtes délivré.
Je crois que ça faisait... J'écris des livres depuis 25 ou 26 ans, je crois, c'est ça. Et ça fait 25 ou 26 ans que j'avais envie de faire ça, et je ne savais pas le faire, je ne pouvais pas le faire. D'abord un manque d'audace, de courage, et puis un manque de métier. J'insiste là-dessus parce que finalement, les livres qui paraissent les plus naturels, et j'espère que celui-là a un côté comme ça naturel, un peu évident, on les écrit, on travaille énormément. Il ne faut pas que ça se voie. Et moins ça se voit, plus c'est travaillé. Et je crois que j'ai dû me nourrir de... J'ai appris, on apprend à écrire sur le terrain, finalement. On écrit pas, on va pas à l'école. À l'école, on vous apprend l'alphabet, à former les lettres. Mais ensuite, il faut beaucoup de livres pour arriver à un livre comme ça. Et je crois que je suis assez... je suis assez heureux de l'avoir fait maintenant parce qu'elle peut en profiter. Voilà, parce qu'elle peut le lire, parce qu'elle est là.
Elle l'a lu, d'ailleurs.
Elle l'a lu sur manuscrit, oui, je voulais qu'elle le... je voulais d'abord que ça lui plaise, puisque finalement, je ne l'ai pas écrit uniquement pour me faire plaisir.
Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle aussi se sentait libre après ce livre ?
Non, non, non. Nos conversations sont toujours plus... On va moins loin que ça, malgré tout. Je pense que je suis allé un peu plus loin... Je suis allé assez loin dans ce livre, oui. J'en avais besoin, j'en avais envie. Je trouvais que c'était aussi assez... c'était assez joyeux, parce que moi, je continue de penser que c'est un livre plus joyeux que triste, même si j'adore les deux, le mélange, les larmes, les rires. Bon, c'est vrai que c'est... On peut pas pleurer sans rire, quoi. C'est vrai que c'est une chose très importante pour moi. C'est joyeux parce que c'est un livre où je montre que cette femme, cette petite femme, est une vedette pour moi, quoi. Je crois que c'est important de dire ça. C'est pas mal, c'est une chance de dire ça, de dire, finalement, peut-être qu'elle a pas eu... Il faut du bol quand on fait ce métier de comédien, d'acteur, puisque ma mère était actrice. Il faut un bol phénoménal. Bon. Et parfois, on passe à côté, comme ça. Bon. Et moi, j'ai pu passer à côté aussi, avec certains livres qui étaient moins réussis, ou qui tombaient pas au bon moment...
Oui, c'est vrai que quand on lit le livre, on sent un bel hommage de votre part à ce métier de comédien en l'occurrence pour votre mère, qui a toujours frôlé la célébrité. On la voit à l'Olympia plusieurs semaines d'affilée, on la voit en One Woman Show. À chaque fois, elle a failli être célèbre et décrocher la timbale. À l'Olympia, c'est l'année de mai 68, et je crois qu'elle en veut beaucoup à mai 68 dans votre livre, de lui avoir fait perdre le fil de sa carrière.
Elle a tourné avec Truffaut aussi.
Et je me retourne vers Bob Swan. Est-ce que vous avez l'impression que Le Défi, c'est un de vos films les plus personnels, parce qu'il parle de l'enfance?
Oui, c'est curieux, parce que quand Jean-Marc a parlé, j'avais l'impression qu'il parlait un peu de mon film. C'est vrai, parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je n'étais pas prêt à faire ce film avant maintenant. Et c'est vrai, c'est la première fois que j'ose aller à la rencontre de l'Amérique de mon enfance. Je crois qu'il y a un temps pour tout. On a besoin d'une certaine distance. Malheureusement, mon père n'est plus là. J'aurais bien aimé qu'il voie mon film. Mais c'est des choses très, très importantes pour nous. Et je crois que dans ma vie, surtout dans ma carrière, c'est un film qui est assez important parce que c'est peut-être la première fois que je parle un peu de moi dans mes films.
Et est-ce que le récit, on va dire un mot du film, mais je vous demanderai s'il est un petit peu autobiographique. Donc, ce petit garçon, dans cette petite ville de province où il est, rêve de grimper sur une espèce de grande tour de métal rouillé qui est en fait l'ancienne antenne radio de la ville et qui va être détruite. C'est son défi à lui, Et on sent que toute sa vie, entre autres, est un petit peu obscurcie par le fait que son père a une réputation dans cette ville de lâche. Il n'a pas combattu pendant la dernière guerre mondiale. On apprendra à la fin du film pourquoi. Son père ne se défend pas contre la vindicte des habitants du village. Et le petit garçon vit au milieu de ça, avec cette image de son père, avec cette image de ce vieux monsieur en train de mourir. Donc, il va être confronté, lui, à l'image de la mort. Donc, je repose ma question. Est-ce qu'il y a des... C'est de la fiction, ça? Ou est-ce qu'il y a de l'autobiographie là-dedans?
Ben, c'est de la fiction, mais c'est des choses qui sont inspirées de mes propres expériences. C'est vrai. C'est vrai que je ne me suis jamais caché dans le placard de ma voisine pour le voir déshabillé, mais j'avais toujours envie. Et voilà, au cinéma, je le fais. Mais c'est un film sur le courage, c'est un film sur la transmission, c'est un film aussi, un des thèmes du film, un des sujets du film, c'est aussi une histoire d'une amitié. Et puis, c'est quand même assez troublant de voir qu'en fait, un vieux bonhomme demande à un enfant de trouver un flingue pour se suicider. Je veux dire, c'est quand même une chose qui n'arrive pas tous les jours. Et c'est un film sur la mort, mais c'est surtout un film sur la vie et le fait que la mort fait partie de la vie.
Bob Swain, Jean-Marc Robert, on vous retrouve dans quelques instants.
Il est 13h30. Le rappel des titres de l'actualité avec Vincent Parisot.
Stupeur à Pavilly, près de Rouen, au lendemain du meurtre d'une épicière tuée d'une balle de 357 magnum dans la tête. Les trois meurtriers présumés ont été arrêtés ce matin. Ils sont tous les trois âgés de 14 et 15 ans. Une spectaculaire opération anti-islamiste ce matin à Bruxelles. Les gendarmes belges ont donné l'assaut à un repère du GIA, le groupe islamiste armé, l'une des organisations les plus radicales. Des coups de feu ont été échangés. 6 islamistes ont été arrêtés, l'un d'eux est blessé, mais le 7e est toujours retranché et armé. Du nid en Seine-Saint-Denis, une nouvelle fois évacué ce matin, les artificiers sont en train de désamorcer une bombe de la Deuxième Guerre mondiale, comme ils l'avaient fait au mois de décembre. Mais cette fois, l'opération est nettement plus délicate. Les habitants de Duny rentreront chez eux dans l'après-midi. La mise en place ce matin de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation des fonds publics en Corse. Ces travaux resteront secrets pour que les personnes entendues parlent plus librement. Et puis la découverte d'une nouvelle maladie musculaire par des médecins français. Les symptômes sont comparables au rhumatisme, mais il pourrait s'agir d'une infection bactérienne. Une vingtaine de cas ont été recensés.
Europe 1, il est 13h32.
Cette semaine, dans Paris Match.
Patricia Cass, elle nous présente Philippe, celui qu'elle aime, l'homme dont elle veut avoir un enfant.
La passion Cléopâtre. En exclusivité, les extraits du livre qui révèlent enfin les vrais secrets de sa beauté et de son pouvoir sur les hommes.
Irak, les drames de l'embargo, nos reporters témoignent.
Paris Match, le premier magazine d'actualité.
Isabelle Giordano, Bruno Kras, le journal des spectacles.
Et nous recevons aujourd'hui un écrivain et un cinéaste, Jean-Marc Roberts et Bob Swain. Bob Swain pour Le Défi, qui sort mercredi, avec John Hurt, entre autres. Et Jean-Marc Roberts pour un nouveau récit, roman, j'hésite, entre les deux, chez Grasset, Une petite femme. Vous parlez l'un comme l'autre de choses très personnelles. Vous faites l'un comme l'autre un retour sur votre enfance, on vient d'en parler. Et d'ailleurs, une question s'impose toute simple. Est-ce que quand on fait un tel retour sur soi, est-ce qu'on se blesse encore plus en touchant comme ça ses propres douleurs, ses propres blessures? Ou est-ce qu'au contraire, on en sort guéri définitivement? Je ne sais pas qui veut répondre.
On se fait violence, oui. Je crois qu'on se fait un peu violence avant d'aller... je réponds pour moi après, Bob. On est américains tous les deux. Quand
oui,
même.
C'est un vrai, autre point commun. Oui.
Moi, je suis français depuis à peine 20 ans. Enfin, c'est assez drôle.
Et d'Alberto Sordi à Vittorio De Sica, vous n'arrêtez pas de parler de cinéma dans le livre.
Vous n'êtes pas un cousin de Julia Roberts?
Non, mon fils l'a beaucoup prétendu à l'école quand il était plus jeune, mais il a arrêté.
Je crois que tu as un meilleur accent que moi, quand même.
En français, oui. En français, oui. On se fait violence quand on parle de soi. Oui, on se fait violence parce que c'est pas... Même si par moment... En fait, on est un peu... Moi, quand je lis les livres des autres, j'ai envie de trouver ça. J'ai envie de trouver des choses comme ça, pas forcément des aveux. On n'est pas non plus tout le temps en train de. On n'a pas des choses énormes peut-être à dire, à révéler. Mais c'est finalement ce qui me plaît le plus. Moi, j'ai l'admiration la plus absolue pour les grands écrivains, les vrais romanciers. Je pensais à Nabokov, par exemple. Moi, je suis pas capable de ça. Bon, peut-être que je le serai un jour, mais donc j'essaie de faire de mon mieux, et mon mieux, c'est ça. J'ai mis 25 ans à trouver.
En tout cas, c'est une parenthèse et c'est peut-être une coïncidence, mais c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup d'écrivains se livrent et parlent de leur père ou de leur mère, que ce soit Raphaël Billedoux, François Veillargans ou encore Georges Samprin qu'on a reçu très récemment. Et Bob Swan, dans quel état vous êtes sorti de ce film ?
Ben, c'est-à-dire que c'est vrai, au début, c'était très, moi, j'étais très troublé par tout ça, parce que c'est vrai, je suis allé refaire un peu le mérite de mon enfance, les objets, les habits et puis les sentiments. Et en même temps, c'était une chose qui m'a beaucoup libéré. Maintenant, je me sens que je suis capable de faire beaucoup de choses. Mais je crois que jusque maintenant, je n'étais pas capable, ni sur le plan moral, de faire ce film, et ni sur le plan de simplement de métier. Je crois que c'est une mise en scène pour moi qui est très maîtrisée. C'est une mise en scène qui est invisible, sans couture, très lisse. Et avant, je n'aurais jamais pu faire ça.
Vous voulez dire que c'était plus dur de faire ce film-là que, par exemple, La Balance, qui a été votre grand succès ?
Ben, La Balance, c'était... Jusque maintenant, c'était mon plus grand succès. non, mais La Balance, c'était, j'étais inconsciente. C'était des vacances. Enfin, j'ai pu faire un film. Et puis, c'était autre chose. J'étais inconsciente, totalement.
On a l'impression que tous les deux, vous avez tourné autour, vous, de pas mal de livres et vous, de pas mal de films, pour arriver, vous, au défi et vous, à une petite femme. C'est le cas, Jean-Marc ?
Je crois que c'est toujours un peu comme ça. Je crois que tous les gens qui font des films, qui écrivent... sont capables d'avouer ça, quoi, de dire qu'en effet, on est perfectible, j'espère, tous, on est perfectible. Sinon, autant arrêter. Si on se dit un jour, j'ai trouvé, c'est ça, c'est bien, je suis content de moi, il faut arrêter, il faut laisser tomber, quoi. J'espère que le prochain livre sera meilleur, et je pense que Bob espère que son prochain film sera meilleur.
Ah oui. Sinon... Moi, il y a une question que je voulais vous poser, Bob Swan, c'est pourquoi, si on calcule entre 77 et 98, en 21 ans, vous n'avez fait que... qu'une demi-douzaine de longs métrages. C'est rare de.
Oui, mais
parce que vous avez beaucoup travaillé.
Je suis un homme très paresseux. Non, je crois que je fais une chose à tort ou raison, c'est que je fais des choix de vie, pas des choix de carrière. Après La Balance, je suis parti en Amérique, j'ai fait un film pour la Fox, j'ai signé un contrat avec l'MGM comme producteur et les éthers. J'ai resté là-bas un peu. J'étais très, très malheureux parce que je suis arrivé en France, j'avais 21 ans quand même. Et je suis revenu ici les années 90. Je suis parti en Italie, j'ai vécu 2 ans à Rome. J'ai fait un film là-bas qui était très amusant, mais la plus grande merde de ma carrière.
Ça fait comment ?
L'Atlantide, mais il y a des gens qui aiment ce film, entre parenthèses. mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film. Mais c'est des choix. J'avais envie d'aller à Rome, j'avais envie d'habiter à Rome, j'avais envie d'aller dans une autre culture. Je fais un film à Londres, je fais un film... un peu partout, j'étais... c'est un peu les choix. C'est difficile d'expliquer aux gens, parce que quand je dis, oui, Bob Swan, il a raté les années 90, mais pas du tout, parce que je crois que je ne me suis jamais raté. Ouais. J'ai produit des films pour la télé, je fais des scénarios pour les autres.
Donc, vous avez l'air d'assumer tout à fait le fait que des critiques disent, alors, Bob Swan, La Balance, et depuis, il n'a plus rien fait. Alors, on s'est trompé, on l'a surestimé.
Mais c'est faux. Parce que, enfin, je me défends, bien sûr. C'est-à-dire que c'est des choix. J'étais très troublé par le succès de La Balance.
J'étais extrêmement
troublé parce que ça faisait 12 ans que j'étais en France, j'étais assistant cameraman, j'ai fait les cours de Vaugirard et j'étais inconnu. J'ai fait un petit long métrage qui s'appelle La Nuit de Saint-Germain-des-Prés.
Avec Auteuil, et c'est vous qui avez révélé Auteuil un autre rôle.
Oui, c'est vrai.
Il oublie toujours ce film Auteuil dans les interviews.
Oui, merci Jean-Marc, parce que c'est vrai. Mais moi je suis très fier parce que j'ai révélé quand même Daniel Auteuil, je vais me vanter un tout petit peu là. j'ai quand même révélé Chuck Icario, j'ai fait quand même le premier grand film de Christophe Malavoie.
Léotard, il était un peu connu.
Léotard, Nathalie Baye, elle est sortie quand même avec La Balance. Berry aussi.
Ils ont eu César.
Florent Pagny, j'ai fait le premier film de Florent Pagny. J'ai fait le premier film de Vincent Lindon, un des premiers films de Vincent Lindon. Donc, c'est pas que j'étais en train de chômer quand même. Mais c'est vrai que peut-être les gens attendent des choses de nous. Mais moi, toute ma vie, j'ai fait des choix. À 21 ans, j'ai quitté... ma patrie, ma famille, je suis venu en France parce que je voulais écrire, je vais être romancier, j'avoue tout là. Et puis
moi je voulais être chanteur.
Je suis arrivé
on peut signaler que Jean-Marc Robert est également éditeur chez Fayard, donc vous avez toutes vos chances.
Mais il écrit des scénarios de cinéma, donc
c'est vrai, il faut qu'on se voit après l'émission.
Bob Swain, on a aussi envie de vous demander, quand vous dites que c'est un film très personnel, Le Défi, est-ce que vous êtes, bien sûr, le petit garçon, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu John Hurt ou...
Je suis, quand on fait un film, moi je suis un peu partout, comme dans tous les films d'ailleurs, parce que le fait que je fais un policier et je fais un personnage qui est un prostitué comme Nathalie Baye, je, quelque part, les choses qu'elle dit sur le monde et sa vision des choses, c'est aussi la mienne. Mais dans Le Défi, c'est clair que je suis aussi le père, parce que en fait, il parle de la guerre de Deuxième Guerre mondiale, mais ma guerre, c'était la guerre au Vietnam. C'est une guerre que j'ai refusé de faire pour des raisons précises. Je suis venu ici. Je veux dire que cette d'être traité de lâche, etc., c'est des choses que j'ai vécues, parce que dans mon quartier, j'étais le seul qui n'est pas allé au Vietnam. Donc, c'est des choses qu'il faut assumer. Et c'est bien qu'on peut parler de ça, même si on utilise les autres personnages pour le faire.
En parlant de lâcheté et de courage, quand on lit votre livre, Jean-Marc Robert, on se dit que vous êtes quand même assez culotté, parce que vous l'écrivez là, vous parlez de la vie de votre mère, de Modiano, de Tchernia, qui vous balanciez des citrons par la fenêtre.
Des citrons pourris.
Des citrons pourris en plus, vous les laissiez bien durcir et puis vous les balanciez par la fenêtre parce que vous aviez perdu.
J'ai perdu Monsieur
Cinéma, qu'il faisait pas engager votre mère. Vous parlez de Marc Cabru. Votre grand-mère cette fois avait mis Marc Cabru, je te crèverais parce qu'il avait fait une mauvaise critique
oui, sur le spectacle de Bernard Lebon.
Et vous parlez de tout ça sans réserve. Comment vous avez fait?
Mais c'est la moindre des choses. Il me semble, non, quand on y va, on y va. C'est vrai que c'est pas...
Oui, là, vous y allez, c'est vrai. Hein.
Il vaut mieux, quoi. C'est vrai, j'ai écouté Bob Sway, mais c'est vrai que c'est pas mal de vivre. C'est pas mal d'avoir des choix de vie. Si dans une vie, on n'aime pas, on prend pas des risques, on fait pas des choses, on perd pas un peu de temps, on n'est pas un peu paresseux, on n'arrive à rien.
Mais c'est de l'impudeur, ça, ou pas? Il faut être impudique pour être écrivain ou cinéaste, hein.
Moi, je pense que je suis plus indiscret qu'impudique.
Indiscret.
Je suis quelqu'un
de très indiscret. Vous parlez de la matière sur laquelle vous travaillez.
Je pense que tous les écrivains que j'aime sont très indiscrets. Il ne faut jamais fréquenter de romanciers, finalement.
Alors, vous parlez d'écrivains que vous aimez. Il y a Modiano dans le livre qui revient. Et vous le soupçonnez, entre guillemets, sans doute avec humour, un moment, de réveiller votre mère la nuit. Vous dites, c'est peut-être lui qui, finalement, appelle ma mère la nuit et donne ses coups de fil qui la réveille, parce que comme il est peut-être désœuvré et qu'il a traversé un peu votre vie, c'est peut-être lui. C'est drôle, c'est de l'humour, ça, ou vous le pensez vraiment?
C'est parce que je pense à lui. Ouais. C'est parce que je pense à lui. Un livre est traversé des personnes et des choses auxquelles on pense et qui vous manquent. Et c'est vrai que j'étais très lié à Patrick, qu'on s'est un peu perdu, qu'on s'est vraiment perdu, d'ailleurs, pour que je dise un peu, on s'est complètement perdu, et que j'en souffre, sinon j'en parlerai pas.
C'est comme ça, c'est beaucoup plus fort que moi. Quand ça prend, ça ne me prévient pas, ça me met dans un triste état. Il suffit de quoi que ce soit, un petit geste maladroit, une rue, un objet, un endroit, ça y est, j'y ai droit. Je vis en jalousie, c'est un drôle de pays, entre le soleil et le gris. J'habite en jalousie, où les visites et les visas sont interdits. Je suis toujours un peu fébrile, un peu nerveux, pas tranquille. À la campagne ou à la ville, faudrait que j'aille dans une île. Sinon c'est comment s'appelle-t-il, celui qui te faisait du cil? Tu me prends pour un imbécile, quoi? C'est inutile, je vis en jalousie. C'est un drôle de pays, entre le soleil et le gris. J'habite en jalousie, où les visites et les visas sont interdits. Thank you.
s'en défait pas comme ça. Même si on se dit parfois, c'est ridicule, je m'en sors pas. Il suffit de quoi que ce soit, un mec en bleu trop près de toi. Un inconnu qui te tutoie, et qui me tue, me laisse en quoi. Je vis sans jalousie, c'est un drôle de pays, entre le soleil et le gris. J'habite en jalousie, où les visites et les visas sont interdits. Je suis souvent, souvent nerveux, quand tu me quittes un peu des yeux. Si quelqu'un touche à un cheveu de tes cheveux, alors c'est qui ce petit merdeux, celui qui joue l'aventureux. Tu crois que j'ai pas vu le jeu ou quoi? Tu me prends pour un bleu. Je vis sans jalousie, c'est un drôle de pays, entre le soleil et le gris. J'habite en jalousie, où les visites et les visas sont interdits. Je vis sans jalousie, c'est un drôle de pays.
C'est son tout dernier, Marc Lavoine, J'habite en jalousie sur Europe 1, Bruno Crasse, Isabelle Giordano, c'est le journal des spectacles.
Le défi sort mercredi, c'est le nouveau film de Bob Swain avec John Hurt et nous recevons également aujourd'hui Jean-Marc Roberts pour son nouveau livre, Une petite femme chez Grasset, un livre où vous parlez de votre mère, cette petite femme en question, elle s'appelle Peggy, vous ne l'appelez jamais maman et vous dites que vous formez avec elle un drôle de couple, vous la décrivez de nombreuses fois dans ce livre, elle mesure 1m55 et demi, et j'ai l'impression que le demi est important.
Elle
porte une montre à chaque poignet, beaucoup de bijoux, et vous vous demandez tout simplement, étais-je son fils, son admirateur, son petit frère ou son amoureux? Vous avez une réponse à cette question? C'est vrai qu'à très peu de moments, vous dites vraiment ce que vous pensez d'elle.
Je pense que j'ai été les trois, j'ai été admirateur, j'ai été frère, j'ai été amoureux, et récemment, très récemment, je suis devenu son fils quand j'ai commencé à écrire ce livre.
Mais ce qui est fort dans le livre, c'est qu'en même temps, on vous sent plein d'amour et d'admiration pour elle. D'ailleurs, vous dites à la fin du livre, notre lien est indestructible. Mais en même temps, est-ce qu'elle vous a fait souffrir quelque part? Parce qu'elle vous appelle le petit gros, elle mine votre vie. Il y a une scène au milieu du livre, page 110, j'ai noté pour la retrouver, où au retour d'un voyage, elle trouve un cheveu blond sur un fauteuil et elle, je donnerai pas les détails, les lecteurs la liront, et là elle part dans une scène de jalousie terrible avec des mots très crus. Vous lui en avez voulu à des moments, au moment de, pendant toute cette histoire que vous racontez dans l'histoire de votre vie?
Jamais pendant, je n'en ai jamais voulu pendant les scènes. Il y a des scènes, heureusement, qui sont inventées, qui sont un tout petit peu arrangées. Je crois que les romanciers, les écrivains font ça. On arrange, comme ça nous arrange. Je n'en ai jamais voulu tellement, parce que si cette femme n'avait pas été ce qu'elle a été, je ne serais jamais devenu écrivain, jamais. C'est en ça que je lui dois ce livre, et beaucoup d'autres, à mon avis, que j'ai écrit. C'est la seule personne dans ma famille qui m'a encouragé à écrire, par exemple. Tout le monde trouvait ça désastreux. Or, peut-être parce qu'elle avait envie de me voir avec un peu de succès, quoi. Succès qu'elle n'avait pas obtenu suffisamment. Elle a encouragé ça. Le livre aurait pu s'appeler Succès.
Elle vous pousse aussi vers le cinéma. À un moment donné, elle dit, mais le cinéma, ça paye mieux. Et elle critique aussi un petit peu le milieu de l'édition.
Oui, enfin, elle a eu un courage phénoménal, c'est-à-dire qu'elle voulait être comédienne de cinéma et de théâtre, et puis ça n'a pas suffisamment marché. Bon, donc elle a, comme elle avait beaucoup de dons, elle a été aussi artiste de musical dans les cabarets, mais je ne sais pas si elle adorait tellement ça. Bon, elle le faisait aussi pour gagner sa vie, c'est-à-dire notre vie, la mienne, la sienne et celle de ses parents qui vivaient avec nous. Alors effectivement, elle aimerait bien que je ne fasse que ça, peut-être, que je ne fasse qu'écrivain, que je sois un écrivain à succès. Or, moi, très vite, je me suis protégé, très vite, j'ai eu très peur, et je me suis dit, je ne vivrai jamais de ma plume, je ne veux pas tenter le coup, là, je ne suis pas assez courageux. Donc, j'ai tout de suite choisi une autre activité parallèle, qui est l'édition. Et j'ai fait aussi un peu de scénario. Mais je pense que cette confusion, en France, est très très mal venue, très mal vécue. En France, on classe les gens. Voilà, Bob Swaim, c'est la balance. Ma mère, c'est la bonne au théâtre. Moi, je suis éditeur, scénariste et auteur. On ne sait pas trop. Les Français sont incroyablement classeurs, quoi.
Alors, je profite que Jean-Marc Roberts revienne sur cette histoire de balance, si je puis dire, parce que tout à l'heure, vous aviez commencé à répondre et à dire, Bob Swaim, que le succès de la balance, vous avez quand même un peu paralysé.
Oui, ben, c'est un peu paralysé. Je crois que j'ai fait certains choix dans ma vie après qui étaient directement liés à ça. C'est-à-dire que j'ai eu quand même, c'était la plus grande recette de l'année. J'ai eu des très, très bonnes critiques.
Des Césars.
Et j'ai eu les Césars qui étaient presque trop pour les gens. C'est curieux, les Français, parce que ils n'aiment pas trop le succès, quand même.
Ils détestent ça.
Ils détestent le succès.
C'est le contraire des Américains. Juste le contraire.
Oui, oui, je crois que c'est le contraire. Parce que les Américains, si vous êtes un artiste, un romancier, un intellectuel, on ne vous respecte pas forcément aux États-Unis.
Oui, comme Woody Allen, par exemple. Ouais.
Et en France, on aime bien les losers, quelque part.
Absolument. Hein.
Mais la balance, c'était une histoire. Et en fait, j'avais le trac. Après, j'ai dit, tiens, j'ai eu une grande recette. En fait, la plus grande recette. Je crois que j'ai eu plus d'entrées qu'E.T. cette année-là. Enfin, c'était hallucinant. Et j'ai eu les Césars, des bonnes critiques. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais après? Et puis, qu'est-ce que
j'ai
fait?
J'ai eu peur qu'on vous attende
au
tournant.
J'ai eu peur, j'ai resté un an. Et puis après, je suis parti en Amérique parce que j'ai eu les propositions. J'ai dit, au moins, on ne me connaît pas là-bas. C'est bizarre, la vie, hein, parce que... Mais peut-être c'était une bêtise aussi, parce que... Mais en fait, maintenant, j'ai envie de revenir en France, j'ai envie de faire des films ici, parce que je me sens quand même, c'est chez moi, j'habite ici. C'est quand même une ville qui était quand même la source d'inspiration pour moi. Et puis, je crois que j'ai encore des choses à dire.
Jean-Marc Roberts, vous avez l'air d'être d'accord sur le phénomène du succès. Ça existe aussi dans l'édition et dans les livres, ça, le succès qui fait peur aux gens, enfin, qui n'est pas accepté par les autres.
C'est très vulgaire, le succès dans ce pays. Ouais. C'est très vulgaire. Les gens n'aiment pas ça et les gens n'osent pas dire ça. Moi, j'adore ça, le succès, pour les auteurs que je publie. Et puis, j'adorerais que ce livre marche, le mien, bon, bien sûr. Et dès qu'on dit ça, alors on dit, mon Dieu, mais comment tu oses dire ça? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la moindre des choses, le succès. Un mot sur Bob, enfin, je dirais une chose sur la balance, c'est qu'il est le seul à ne pas avoir fait la balance le retour, lui.
Ouais.
Il n'a pas fait la balance 2, la balance 3. Enfin,
on m'a beaucoup demandé, mais j'ai résisté quand même.
Et maintenant, en fait, la balance, j'y pense parce que je ne peux pas ne pas y penser. Tous ces films, téléfilms, c'est ça. C'est vous qui avez lancé...
Oui, c'est ça. La façon dont on parle de la police d'une autre manière.
C'est le premier film qui parle de la police d'une autre manière, quand même.
Et puisqu'on parle cinéma, dans le livre, vous dites que vous vous sentez très proche d'un seul film, Le voleur de bicyclette. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi?
C'est le plus beau film du monde pour moi. C'est le plus beau film du monde, c'est le film qui me touche le plus, c'est le film qui me fait pleurer, c'est le film où je suis tous les personnages, celui qui vole, celui qui est volé, celui qui vole à nouveau. C'est ma famille. Toute ma famille est dans ce film. Et pourtant... Ça n'a peut-être pas grand-chose à voir.
Alors, le défi, c'était un défi pour vous de faire ce film. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bob Swaim. Comment s'est passé le tournage? Parce qu'on sent aussi que vous avez mis un soin minutieux à faire cette reconstitution. Une reconstitution qu'on retrouve un peu dans votre livre, parce qu'on vit un petit peu les années 60-70. Et vous, là, on est vraiment dans l'Amérique de la fin des années 50. Et c'est vrai, cette vieille antenne radio, les appâts, les frigidaires, tout a été reconstitué. Vous y tenez, ça, hein, ça.
Ben oui, parce que je me suis dit que c'est peut-être la première et dernière fois de ma vie que j'aurai l'occasion d'aller, c'est comme de retourner dans cette période, c'est un peu un voyage dans une machine à travers le temps, quoi. Et j'ai tourné le film en Nouvelle-Zélande. Oui, j'avoue, peut-être il ne fallait pas le dire. Mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'Amérique des années 50. Et comme c'est une île, ils ne jettent rien là-bas. Ouais. Donc, j'ai trouvé les vieilles voitures, les vieilles bandes dessinées et tout. Et puis, j'ai construit le reste. J'ai fait tous les décors que j'ai construits. Tous les costumes sont fabriqués, etc.
Et on n'a pas beaucoup parlé de John Hurt.
Il est remarquable dans le film. Ouais. Honnêtement, en tout, ce n'est pas moi qui joue. Donc, je peux le dire, il est vraiment étonnant dans le film.
Facile à diriger?
Facile, il fait
monstre sacré quand
oui,
on
mais,
voit maintenant
mais
Hurt,
hein. C'est-à-dire qu'il est facile. Et comme tout grand acteur, quand on lui dit quelque chose, et si on n'a pas tort, il fait. Non, la chose la plus difficile, c'est de diriger un enfant, parce qu'il fallait inventer un langage. parce que je parlais quand même des émotions parfois contradictoires et très complexes. Et comment d'expliquer certaines choses à un enfant?
Il avait déjà joué ce petit Grégory Smith?
Très peu. Et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Je crois qu'un enfant qui a beaucoup de carrière, qui a beaucoup joué, ils arrivent avec des bagages, avec l'éthique, avec certaines choses. Et là, il était vrai, il était très naturel dans son jeu. Mais il fallait trouver un langage, une façon de communiquer avec l'enfant.
Jean-Marc Roberts, en écoutant Bob Swain, ça vous donne de nouveau des envies de cinéma et de scénario?
Non, parce que je trouve que ce pays...
Merci, hein. Zut, alors.
Ça me donne envie d'y aller au cinéma. Moi, ouais. J'y vais tout le temps.
Et vous voulez
mais
plus
de travailler. Non, je trouve que ce pays a basculé complètement.
Bon,
et que l'argent... La circulation de l'argent a trop changé. Il y a trop de décideurs, on dépend de trop de gens... Quand j'écris un livre, je suis tout seul. C'est un luxe extraordinaire. Quoi. J'ai besoin de... Si mes acteurs sont malades, ils jouent quand même. Quoi. J'ai pas de problème.
Donc Bob Swain, la prochaine fois, écrira un livre, peut-être, parce que ça le démange d'être romancier.
Oui, ça fait un rêve. Je me suis dit, un jour, je vais le faire.
En tout cas, Jean-Marc Roberts, Bob Swain, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Jean-Marc Roberts, aux éditions Grasset, Une petite femme, et votre film, Le Défi, avec entre autres John Hurt, Gregory Smith, qui sort mercredi prochain. Merci.